Veuillez vous rasseoir. Nous allons nous préparer à recevoir sa parole. Gloire à Dieu. Mais ce matin, je voudrais que tous ensemble, nous puissions prier pour la parole. Nous voulons amener toute pensée captive, quelle qu'elle soit, à l'obéissance à Christ. S'exposer à la parole de Dieu, c'est avoir ce privilège immense de recevoir une semence vivante et vivifiante. Mais nous ne devons jamais oublier que l'ennemi n'est jamais loin. Nous voulons que la parole soit reçue dans nos cœurs comme une semence qui tombe dans de la bonne terre, et non pas là où il y a des pierres, et non pas là où il y a des épines. Et pour cela, nous voulons proclamer la victoire de Jésus. Alléluia. Je vous demander de vous mettre debout si vous n'êtes pas fatigué, et puis ensuite je vous laisserai assis jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vous fasse mettre debout. Alléluia. Nous allons proclamer la victoire de Jésus. Nous allons amener toute pensée, quelle qu'elle soit, pensée de distraction, pensée impure, qui essaie de déstabiliser certaines personnes, eh bien nous allons amener tout cela à l'obéissance du Christ. Alléluia. Oui, nous voulons nous élever contre toute pensée qui serait un obstacle à l'accueil de la parole de Dieu dans nos vies, à la réception de la parole de Dieu dans nos cœurs. Prions tous ensemble, alléluia. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as porté, Seigneur, tous nos problèmes. À la croix, tu as pris nos péchés. Tu es mort, et par ta mort, tu as vaincu le diable. Par ta mort, tu as vaincu le péché. Par ta mort, tu nous as acquis, Seigneur, le salut. Et tu as rendu possible, Seigneur, la victoire. Ainsi, en ton nom, nous prenons autorité sur toute pensée qui ne vient pas de toi, toute pensée contraire à la pensée du Père, au nom de Jésus-Christ. Nous amenons toute hauteur contre ta parole, Seigneur, à la soumission, à ta soumission. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Oui, nous te prions maintenant, Seigneur, de déposer sur nos cœurs ta pensée, et que cette pensée puisse, Seigneur, révolutionner notre vie, qu'elle puisse, ô Dieu, conduire à une transformation, à une métamorphose qui nous fait ressembler à toi et à toi seul. Pose ta main sur chacun de nous, mais aussi sur ton serviteur, afin qu'il ne soit qu'un simple outil entre tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Merci, Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. La plus grande chose que nous puissions faire pour Dieu, le plus grand cadeau que nous puissions donner au Seigneur, alors même que tout vient de lui, alors même que tout nous vient de lui, eh bien c'est de lui donner notre cœur. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu chérit tant que le don de notre vie. Il n'y a rien que le Seigneur attend de nous et qui revêt une importance, mes amis, indescriptible, que le fait de lui donner notre cœur. Alléluia. Lui donner notre cœur afin que lui, le divin potier, puisse faire de nos vies ce qu'il veut. Donner à nos vies la forme qui lui convient et puis nous transformer en des outils entre ses mains pour la manifestation de sa gloire. Nous allons, une fois de plus, revenir donc sur notre thème, être l'argile entre les mains du divin potier. C'est donc le quatrième épisode. Aujourd'hui, je vais essayer de rappeler certaines vérités qui ont déjà été vues. Ce n'est que le dimanche prochain que nous allons décoller véritablement. Et je voudrais revenir un tout petit peu, permettre à chacun de nous de savoir où on en est, par où nous sommes passés par rapport à ce thème. Être l'argile entre les mains du divin potier. Nous allons revenir donc à Jérémie 18, les 6 premiers versets. Nous lisons donc Jérémie 18, les 6 premiers versets. La Bible nous dit, la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Oracle de l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. Être l'argile dans la main du divin potier. Je voudrais donc, une fois de plus, revenir sur ce thème tiré de l'expérience de Jérémie, à qui Dieu demande de descendre dans la maison du potier. Le prophète obéit, il descend à la maison du potier, et il trouve le potier en train de travailler un vase, en train de travailler sur le tour. Il faut savoir que le tour était constitué de deux disques, qui étaient comme deux plateaux, attachés à un essieu vertical. Et donc, il remuait un plateau, un disque, avec ses pieds, et en même temps, l'autre disque, il le maniait avec ses mains. Et donc, il trouve ce potier en train de travailler, en train de faire un ouvrage. Il se trouve que cet ouvrage, qu'il faisait, fut manqué. Comme il arrive, et la parole de Dieu le souligne, il arrive souvent au potier. Il ne s'est pas découragé, il en refit une autre poterie selon qu'il lui plaisait de le faire. Et là, la parole de Dieu va retentir, Dieu va parler à son serviteur en lui disant, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» Oui, comme la glaise, comme l'argile, dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Israël, peuple de l'ancienne alliance. Israël, qui a eu le privilège de recevoir les premières promesses de la part du Créateur. Et là, dans cette image, dans cette métaphore du potier de l'argile, Dieu s'adresse à Israël pour lui dire, vous êtes l'argile entre mes mains. J'ai donc un travail à faire avec vous. Eh bien, cette image peut nous servir et nous sert à nous, peuple de la Nouvelle Alliance, à nous, les disciples du Christ. Il est donc important de comprendre que nous sommes l'argile entre les mains du Seigneur, entre les mains de celui qui un jour a donné sa vie pour chacun de nous. Alléluia. Il est le divin potier et nous sommes l'argile. Gloire au Seigneur. Cette image ou cette métaphore du potier et de l'argile illustre à la fois, mes amis, et nous l'avons souligné, illustre à la fois notre statut, notre condition, notre position devant Dieu, ce que nous sommes aux yeux de Dieu et la relation singulière que nous entretenons avec lui, la relation particulière qui nous unit à lui. Il y a donc notre condition, illustrée par l'argile, et puis il y a la relation qui nous unit à notre divin potier, et donc, et entre les deux, pour que les choses se passent, il y a des conditions qui doivent être remplies. Gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, posons-nous cette question. Quel est ce statut qui est donc illustré par l'argile entre les mains du potier? Quelle est cette position, notre condition aux yeux de Dieu? Eh bien, nous l'avons vu, nous sommes des serviteurs. Certes, nous sommes ses enfants en Christ. Dieu nous a engendrés à la nouvelle vie, et en tant que ses enfants, eh bien, il nous destine à le servir. En d'autres mots, nous sommes donc, nous avons le statut d'enfant, mais d'enfant serviteur. Nous sommes appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Mais par rapport à ce service, rappelez-vous, je vous avais mis en garde, j'avais dénoncé cette approche qui consiste à mettre beaucoup d'accent sur le service, à pousser les gens à être actifs dans la moisson du Seigneur, à pousser les gens à être actifs dans l'œuvre de Dieu, à pousser les gens à faire ceci ou à faire cela. Et tout cela au détriment de ce qu'ils sont d'abord et avant tout aux yeux de Dieu. Alléluia. Il faut servir. Évidemment, il faut servir. Et nous l'avons vu, nous sommes sauvés pour servir. Mais si nous ne faisons pas très attention, nous risquons de mettre beaucoup d'accent sur le service. Nous risquons de ne voir que ce que nous pouvons faire pour Dieu. Or, aux yeux de Dieu, cela n'est pas prioritaire. C'est notre être, c'est ce que nous sommes qui préoccupe plus Dieu. Car la qualité de notre service dépendra, mes amis, de la qualité de notre vie. Alléluia. Et donc nous devrions plus regarder à nous-mêmes. Nous devrions investir plus notre temps pour cultiver une certaine intimité avec le Seigneur, pour soigner notre relation avec lui. Donc je disais, cette approche qui consiste à prioriser le service, à mettre plus en évidence ce que les uns et les autres pourraient faire pour Dieu. Cette approche qui consiste à vouloir conjuguer coûte que coûte, vaille que vaille, quoi qu'il en soit, conjuguer le verbe servir, eh bien cette approche-là conduit de manière inéluctable à l'activisme, à l'affairisme, à l'opportunisme dans la maison de Dieu. Ainsi, on voit des gens s'élever un peu partout et se mettre à courir pour essayer de faire quelque chose pour Dieu. Et quelquefois, nous les responsables, nous poussons les gens en leur disant « Vous devez absolument servir, vous devez absolument être actifs, vous devez absolument œuvrer pour Dieu. » Oui, Dieu veut que nous soyons actifs, mais cependant, le service reste secondaire. Ce qui l'intéresse plus, c'est ce que nous sommes. C'est notre condition, alléluia. Car ce que nous sommes, eh bien, restera éternellement. Mais ce que nous faisons passera. Gloire à Dieu. Donc il est important que nous le comprenions. Et donc cette approche-là, qui conduit les gens à être actifs, à être opportunistes, eh bien, n'est pas sans conséquence, d'abord sur la vie personnelle des individus, mais aussi sur l'Église en général. Et on comprend pourquoi l'Église aujourd'hui, eh bien, n'assume plus pleinement sa vocation d'être la lumière du monde et d'être le sel de la terre. Ce n'est pas les services, ce n'est pas ce que nous faisons qui fera que nous soyons la lumière, mais plutôt ce que Dieu fait en nous. Oh, alléluia. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Eh bien, donnons à Jésus toute la place qui lui revient, alors nous brillerons puissamment de sa lumière. Alors nos vies seront du sel qui luttera, qui arrêtera la corruption qui gangrène notre monde. Mes amis, l'accent doit être mis sur la personne derrière le service, c'est-à-dire sur le serviteur ou sur la servante. Alléluia. Car pour Dieu, c'est d'abord l'être. Arrêtons de courir, mais passons plus de temps avec Dieu. Apprenons à placer notre cœur entre ses mains, afin que lui, le divin potier, puisse le travailler. L'homme reste, quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain, donc l'homme au sens générique du terme. L'homme reste la préoccupation majeure de Dieu. L'homme est au cœur de l'action et de l'activité de Dieu ici-bas. Oh, alléluia. Donc, il n'y a rien qui puisse remplacer l'homme. Aucune activité ne peut apporter une quelconque plus-value à la vie de l'homme. Il n'y a rien que nous fassions qui puisse, mes amis, apporter une plus-value à notre vie. Nous sommes en Christ, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures. Voyez-vous, nous pourrions jeûner pendant 40 jours. Nous pourrions prêcher, faire des sermons extraordinaires. Nous pourrions être utilisés puissamment par le Seigneur. Ce n'est pas pour autant que notre vie acquérait comme ça, comme par enchantement, une plus-value. Pas du tout. Notre valeur est liée au fait que nous sommes en Jésus. Que nous prêchons ou que nous ne prêchons pas, nous lui appartenons. Alléluia. Que nous gênions ou que nous ne gênions pas, nous sommes en lui, nous sommes ses enfants. L'homme, l'être avant l'agir, l'être avant le faire. Puisqu'il en est ainsi, alors mes amis, nous devrions tout faire pour donner l'occasion au Seigneur de travailler nos vies, d'en faire des vases d'honneur, et ce pour sa gloire. Voilà donc la condition, notre statut. Nous sommes ses enfants, mais des enfants serviteurs. Je reviendrai, ou nous reviendrons un peu plus en profondeur quand nous allons parler justement de serviteurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes liés à un maître, et notre maître est Jésus. Et nous allons voir, et nous allons essayer de comprendre pourquoi les apôtres, les disciples comme Paul, comme Pierre, ont eu à se présenter comme étant les esclaves de Jésus. Voyez, esclaves. C'est vrai que le français, la langue française, supporte très difficilement l'assimilation du service et de l'esclavage. L'esclavage revêt toujours une connotation négative. L'esclavage implique toujours l'idée d'un asservissement, voyez-vous, d'une sorte de vampirisme. Et nous avons des difficultés à chaque fois que, par exemple, nous lisons les Épîtres et nous voyons quelqu'un comme Paul, comme Pierre, se présenter comme étant esclave. Parce que c'est vrai, autrefois nous étions esclaves du diable. Et le Seigneur nous a délivrés, il nous a fait entrer dans une nouvelle relation. Mais dans cette nouvelle relation, nous sommes appelés à dépendre totalement, entièrement de lui. Oh, alléluia. En cela, le mot esclave, eh bien, a toute sa place dans notre langage. Et nous reviendrons à ça plus tard. Voilà donc notre statut. Nous sommes appelés à être des serviteurs et non pas des patrons. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'un côté des patrons et de l'autre côté des serviteurs et des servantes. Voyez-vous? Pas du tout. Nous sommes tous des serviteurs. Alléluia. Tous disciples du Christ. C'est qu'il attend ce que nous grandissions dans cette relation de disciples. En étudiant la parole, j'ai été surpris. Évidemment, je suis dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, que l'apôtre Matthieu, un des auteurs du Nouveau Testament, un homme qui nous a laissé ces témoignages extraordinaires, que le premier testament, le premier évangile, eh bien, utilise une seule fois le mot apôtre, c'est dans Matthieu 10. C'est tout. Dans Matthieu 10, je crois au verset 2, quand il choisit les apôtres, c'est la première et la dernière fois que Matthieu utilise le mot apôtre. Mais il va plus utiliser le mot disciple, alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous mettons beaucoup d'accent sur le fait d'être envoyé comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste. Alors que ce qui intéresse Dieu avant tout, c'est que nous soyons des disciples accomplis. Alléluia. Oui. Il va utiliser plus le terme de disciple que le terme d'apôtre. Mais aujourd'hui, nous qui affectionnons les titres, eh bien, nous passons plus de temps pour que les gens, nous faisons tout pour que les gens nous reconnaissent comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, voyez-vous, alors que les gens devraient d'abord et avant tout nous reconnaître comme étant des humbles serviteurs du Christ, des humbles disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Et gloire à Dieu. Voilà donc notre position, notre condition aux yeux du Seigneur. Nous avons vu que cette image illustre à la fois notre condition de serviteur et en même temps notre relation singulière avec le Seigneur, comme l'argile avec le divin potier. Alors la question qu'on pourrait se poser est celle de savoir quelle est la nature de la relation qui nous unit à Dieu. Eh bien, nous allons passer beaucoup de temps, je vous préviens, pour voir, pour regarder autour et alentour de cette relation qui nous unit au Christ, cette relation qui nous unit à Dieu, au point où en Jésus-Christ, ce Dieu-là devient notre Père. Oh, alléluia! Avec tout ce que cela entraîne. Comme je le soulignais le vendredi, quand le Seigneur montre à ses disciples comment il faut prier, hein, il leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. Dieu devient notre Père. C'est une grande révélation. Aujourd'hui, nous passons plus de temps à parler du Dieu d'Abraham, du Dieu Moïse. Abraham est passé. Ce Dieu-là, en Jésus-Christ, nous a adoptés. Ce Dieu en Jésus-Christ est devenu notre Père. Et nous pouvons ainsi, mes amis, avoir une grande proximité avec lui. Nous pouvons ainsi, mes amis, nous attendre à ce que ce Père-là, eh bien, nous comble de toutes sortes de bénédictions et de grâces. C'est ce que d'ailleurs la Bible nous dit. Quand Jésus-Christ, ce Père-là, eh bien, nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il est notre Père. Lisez les évangiles. Et vous allez voir qu'il parle plus de Dieu comme étant son Père et notre Père. Voici comment vous devez prier. Notre Père. Il ne dit pas votre Père. Et pour aller à ce Père-là, pour entrer en communion avec lui, eh bien, il n'y a pas de recette magique. Il faut prendre un chemin. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ce chemin est une personne. C'est Jésus. Non seulement il faut prendre ce chemin, mais il faut encore que lui, Jésus, nous tienne par la main et qu'il nous dirige sur ce chemin et qu'il nous fasse entrer dans le Saint des Saints, dans le palais céleste. Alors là, nous pouvons communier, nous pouvons avoir un cœur à cœur, nous pouvons avoir un face à face avec notre Père. Voilà ce qu'il attend de chacun de nous. Je l'ai dit le vendredi, Dieu ne recherche pas l'adoration ni la louange. Arrêtons avec ça. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père, le Père en esprit et en vérité. Car, ajoute-t-il, ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs. La vraie adoration, c'est celle qui est le produit d'une communion intime avec le Père. Oh, alléluia. Mais aujourd'hui, nous mettons beaucoup d'accent sur la mélodie, sur les chants. Tout ça, c'est bien. Mais si cette adoration sort d'un cœur impur, d'un cœur rongé par le mal, d'un cœur méchant, hypocrite, d'un cœur rempli de convoitise et de cupidité, laissez-moi vous dire une chose. Cette louange ne sera pas grillée par Dieu. C'est donc la nature de notre cœur, l'état de notre cœur qui va déterminer la qualité de notre louange et de notre adoration. Alors au lieu de se précipiter à chanter, au lieu de se précipiter à lever les mains, commencez d'abord par vous regarder. Dans quel état moral et spirituel êtes-vous? Faites une sorte d'introspection. Regardez comment vous avez marché tout au long de la semaine. Regardez par où vous êtes passé. Et si le Saint-Esprit vous révèle un péché, confessez-le. Voyez-vous, réconciliez-vous avec votre Père. Et puis ensuite, vous pourriez l'adorer. Vous pourriez lever les mains et chanter pour sa gloire. Alléluia. Quelle est la nature de la relation qui nous unit à Dieu? Nous passerons du temps. Enfin, je voudrais que cette année soit une année où nous privilégions la qualité. Voyez-vous? Où nous vivons une vraie relation avec Dieu. Où nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Où nous allons arrêter avec l'opportunisme, l'activisme, courir dans tous les sens. Et comme nous l'avons vu dans la plupart des cas, les gens font ceci, les gens font cela, non pas parce que Dieu leur demande, mais dans la plupart des cas, tout simplement pour se mettre en évidence. Ces activités-là sont là pour la satisfaction de leur moi. Cet activisme ou ces activités, eh bien, deviennent comme une sorte de piédestal sur lequel ils montent, afin que tout le monde le voie. Oh, lui sert le Seigneur. Une sorte de promontoire pour être vu. Non, mes amis, il est plus que temps que nous apprenions que le moment le plus merveilleux, le plus extraordinaire, le plus précieux que nous puissions voir ici-bas sont ceux que nous passons avec Dieu, là dans le Saint des Saints, à l'abri de tout le monde. Voyez-vous, après avoir fermé la porte à tout, nous nous retrouvons seul à seul, face à face, cœur à cœur. C'est là que nous allons expérimenter le plus grand miracle qui soit, la transformation de notre vie. Alléluia. Oui, cette relation est une relation d'amour qui va dans les deux sens. Dieu nous aime et en retour, il nous appelle à l'aimer. Il nous appelle à l'aimer, à tout faire par amour. Et dans l'amour, il n'y a pas que les actes, mais il y a aussi la motivation derrière les actes. Voyez-vous? Car dans la plupart des cas, quand nous voulons évaluer un geste et dire ça c'est un geste d'amour, nous ne regardons qu'à l'acte lui-même, oui ou non. Mais oui, un acte peut nous paraître noble, alors que derrière cet acte, il y a une motivation impure. Quelqu'un peut poser un geste fraternel, un geste louable, qui peut nous amener à dire, oh là là, ce frère est bon, voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Mais en réalité, Dieu seul sait la motivation derrière. Pour qu'on le loue partout. Pour qu'il devienne le bon samaritain de Kinshasa. Quand il passe quelque part, il dit, ah lui, ah Yazakaboye. Ah lui, Yazalakaboye. Voyez-vous? L'amour englobe le tout, nous le verrons. Oui. Paul en parle, 1 Corinthiens 13, dans cet hymne de cette ode à l'amour. Quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas d'amour, cela ne sert de rien. Ah, quand je donnerai tous mes biens, vous voyez mes amis, ça veut dire qu'on peut donner tous ses biens. On peut donner à manger aux gens, on peut le faire sans qu'il y ait l'amour derrière. Une relation d'amour. Il veut que nous l'aimions du même amour dont il nous aime. Voilà pourquoi le plus grand des commandements, depuis l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur lui-même le rappelle. Que dit-il? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pas de manière partielle. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Voyez-vous? Voilà ce que Dieu attend avant toute chose. Peut-on aimer quelqu'un et ne pas passer du temps avec lui? Dites-moi un peu, les dames, votre mari vous dit tout le temps je t'aime, mais vous le voyez par jour 30 minutes seulement, et puis il disparaît. 3 jours après, il revient, oh je t'aime. Ouais. Après, il s'éclipse. Une semaine après, ah chérie, je t'aime. Tu es vraiment le foufou dont j'ai besoin. Ouais. Non, quand on aime, on passe du temps avec. Quand on aime, on donne du temps à l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Que nous arrivions à comprendre la prière ne nous a jamais été présentée comme un monologue. Et souvent, dans la plupart des cas, si nous voulons être honnêtes et sincères avec nous-mêmes, c'est ce qui nous arrive. Quand nous disons prions, il n'y a que nous qui parlons, oui ou non? Seigneur, c'est si, Seigneur, c'est bien. Et après? C'est vrai que par la prédication, Dieu nous parle. Mais laissez-moi vous dire une chose, il aimerait aussi, lors de nos moments de prière personnel. Lorsque nous nous retrouvons seuls avec lui, il aimerait à un certain moment que nous lui donnions l'occasion de nous parler. Celui qui a parlé à Jérémie est le même encore aujourd'hui. Alléluia. Celui qui a parlé à Isaïe est le même encore aujourd'hui. Celui qui a parlé à Paul est le même encore aujourd'hui. Il veut te parler, mon frère et ma sœur. Oui. Mais toi, tu ne cherches que Dieu te parle par les autres. Par des prophéties, par des visions. Il y a des gens qui souffrent de visionnites. Vous pensez que cela plaît au Seigneur? Il veut te parler directement. Oui, il peut nous donner une prophétie par quelqu'un d'autre. Oui, il peut nous donner une vision par quelqu'un d'autre. Mais il aimerait aussi s'adresser à nous directement. Il aimerait un moment te dire, ma fille, tu sais, je t'aime. Tu sais, je connais ton problème. Ne tourne pas des regards inquiets. J'ai la situation en main. Ma fille, arrête de pleurer. J'ai vu tes larmes. Je viens pour les essuyer, mais en même temps, je viens pour te donner la victoire. Oh, alléluia. Oui, nous devons arriver à ça, mais le chemin est long et demande beaucoup de consécration. Donc, une relation d'amour, mais pas une relation où nous serions comme des mercenaires. Vous savez, les mercenaires font des choses pour l'argent. N'est-ce pas? Voyez. Donc, nos braves soldats de FRDC, ils défendent le territoire, non pas pour l'argent, hein, par patriotisme, par nationalisme. Mais si vous voulez, si vous allez chercher des mercenaires quelque part, vous pensez que ces mercenaires viendront travailler gratuitement? Ils vous demanderaient de l'argent. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons des mercenaires. Mais dans la plupart des cas, nous nous comportions comme des salariés. Dieu devient notre employeur. Seigneur, tu as vu, j'ai fait ceci, hein. Maintenant, j'attends la rémunération. J'ai donné ma dîme, j'attends un retour. Seigneur, je prêchais. Voyez? Maintenant, j'attends. Tu as dit que celui qui prêche, qui annonce l'évangile, vit de l'évangile. Donc, j'ai annoncé l'évangile, Seigneur. J'attends un retour. Que tu me donnes quelque chose. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu as une famille. Mais ne fais pas ce travail comme pour un employeur. Tu n'es pas un salarié de Dieu. Tu es son serviteur. Il est ton père. Il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans le sermon sur la montagne, ne vous inquiétez de rien. Votre père sait de quoi vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, il le sait. Une relation de serviteur à gage. Ah oui. Voilà. Ce n'est pas une telle relation. Cette relation avec le Seigneur, qui est une relation d'amour, nous verrons un peu plus en profondeur quand nous allons parler de l'amour. Eh bien, cette relation doit être considérée comme une priorité. Et non pas quelque chose de secondaire, voyez-vous, une priorité, car de cette relation dépend la qualité de notre vie et l'efficacité de notre service. Voyez-vous, nous sommes dans le monde ce que nous sommes d'abord et avant tout devant Dieu. Qui sommes-nous devant le Seigneur? Oui. Jésus a dit, moi, Jean 15, verset 5, moi, je suis le cep, vous le sarment. Le cep, c'est la plante de la vigne. Et les sarments, ce sont les tiges de la vigne. Vous voyez? Celui qui demeure en moi, comme moi en lui. Vous voyez, il y a une relation, hein? Nous demeurons en lui, et lui demeure en nous. Eh bien, celui-là, nous dit le Seigneur, porte beaucoup de fruits. Et il ajoute, car sans moi, vous ne pouvez. Voilà l'importance de cette relation. Le sarment doit rester attaché au cep s'il aspire à porter du fruit. Et encore du fruit en abondance. Le sarment lui-même n'a pas cette capacité à produire du fruit. Non! Il doit rester attaché au cep, à la vigne. Et ainsi, la sève qui est dans la vigne va passer à travers le sarment et lui permettre, mes amis, de produire du fruit. Tout cela nous parle, vous voyez, de cette relation intime. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui, il n'y a rien. Il y a un temps, certes, où l'action est nécessaire, où nous devons être actifs. Voyez-vous, mais nous ne pouvons jamais négliger, escamoter notre relation avec Dieu, la reléguer à la dernière place et en faire quelque chose de facultatif. Non, nous devrions nous soucier plus de cette relation que de toute autre chose. Mes amis, la relation avec Dieu doit venir en premier, doit occuper la première place en nous. Où suis-je dans ma relation avec le Seigneur? Où suis-je dans cette relation-là? Le divin potier est appelé à travailler l'argile. Mais pour autant que l'argile reste dans sa main, nous sommes l'argile qu'il est en train de travailler afin de donner à cette argile, nous l'avons vu, la forme selon la volonté du potier. Donner à l'argile la forme selon le potier, en faire un outil, un instrument de choix pour l'accomplissement de ses objectifs, pour l'accomplissement de ses desseins. Voyez-vous, ce sont ses objectifs à lui, pas les nôtres. Ce sont ses desseins à lui, ce sont ses plans à lui qui doivent s'accomplir. Puisque ce sont ses desseins, ce sont ses objectifs, alors il n'y a que lui et lui seul qui peut les accomplir. Comme il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, puisque c'est lui et lui seul qui peut accomplir ses desseins, qui peut accomplir ses objectifs, nous avons vu, pour ce faire, à cette fin, que l'argile que nous sommes doit faire deux choses. Doit impérativement faire deux choses. D'abord, et ces deux choses sont des conditions importantes, impératives, si l'argile veut jouer le rôle pour lequel elle est argile entre les mains du divin potier. Premièrement, nous l'avons vu, comme je vous ai dit, c'est un rappel, l'argile doit être malléable. L'argile doit être modelable, doit être pétrissable, malaxable, dans la main du divin potier, afin qu'il puisse faire avec la même argile tel ou tel autre objet selon son bon vouloir, telle ou telle autre poterie comme lui le veut, et en faire un instrument de choix. Ce n'est pas à l'argile de dire, mais Seigneur, j'aimerais que tu me donnes cette forme. Comme ça, avec cette forme, je pourrais aller travailler à Badolité. Un seul a été modelé. Et il est à Badolité. Le pasteur Bocquet, il est là. Voilà. Mais aujourd'hui, on regarde, on voit que le travail se fait de manière extraordinaire à Badolité. Des gens, l'église grandit, on dit, ah Seigneur, donne-moi la forme pour que j'aille à Badolité. Donne-moi la forme pour que j'aille je ne sais où. Arrêtons cet opportunisme. Les abandonnons entre les mains du Seigneur. Et selon la forme qu'il aura donnée à notre vie, il nous dirigera, lui. Mais aujourd'hui, nous marchons par la vue. Voyez-vous, nous regardons où nous pourrions gagner plus d'âmes et avoir plus d'argent. C'est ainsi qu'on assiste à ce phénomène de saturation au niveau de la ville de Kinshasa, des églises partout, même des quartiers résidentiels. Voyez, on ne sait plus reposer la tête, hein? Oui ou non? Oui. Du jour au lendemain, il y a une cellule, et puis 6 mois après, on commence à jouer les tam-tams. Une année après, ben, c'est des haut-parleurs, alors que c'est une petite pièce comme ça. Et puis c'est des nuits de prière. Vous avez des enfants qui doivent aller demain à l'école. Vous-même, vous travaillez, vous avez besoin de repos. J'ai dit à quelqu'un, J'ai dit, l'église, dans tel quartier, j'ai dit, attendez un jour. L'ordre reviendra. Quand les bourgmestres, si vous êtes bourgmestre, écoutez-moi bien. Le président vous a nommé pour maître de l'ordre. Voyez-vous? Eh bien, il viendra un temps où on va mettre de l'ordre. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Déjà, j'ai appris avec beaucoup, beaucoup de satisfaction que le gouverneur a mobilisé tous les bourgmestres du côté de la Tchangoula, y compris le commissaire général de la police, pour nettoyer le boulevard Lumumba. Oui, ça c'est une très très bonne chose. Vous ne dites pas amen. Quand on vous parle d'élévation, ça aussi c'est l'élévation. Où les gens peuvent circuler calmement. Voyez. Et donc, tout ça, ça doit arrêter. Pourquoi? C'est l'opportunisme. L'affairisme, l'activisme nuisible, mortifère. Première chose. Donc, l'argile doit être malléable et modelable. Et ensuite, l'argile doit rester dans la main du potier. Oh, alléluia! C'est une relation qui est appelée à durer, à demeurer. Cette relation commence ici dans le temps et dans l'espace, et se poursuivra dans l'éternité. Mais, il est le divin potier dans l'espace et dans le temps. Quand nous passerons de l'autre côté, ça sera trop tard. Beaucoup d'entre nous seront surpris quand le Seigneur leur dira, « Mon fils, ma fille, j'ai tout fait, je t'ai parlé, j'ai permis aux circonstances de t'arrêter parce que je voulais te donner cette forme pour que tu deviennes une grande bénédiction de l'autre côté, mais tu n'as pas voulu. » Voilà ce que j'aurais pu faire avec toi. Et certains se diront, oh Seigneur, c'est pas possible. Eh oui, Dieu va nous récompenser, non pas pour ce que nous aurons fait pour lui. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Le Seigneur va nous récompenser pour ce que lui aura fait par nous et à travers nous. Alléluia. Quand nous lui aurons donné l'occasion de faire de nous de l'argile, et puis ensuite, un pot ou un vase. Et quand il aura terminé ce travail, et qu'il aura utilisé ce vase pour sa gloire, eh bien nous lui aurons donné l'occasion de faire de nos vies des simples outils pour l'accomplissement de ses desseins. Et là, il nous dira en ce jour-là, fidèle serviteur, fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. C'est ça. Alors arrêtons de vouloir tout faire. Laissons Dieu. Il y a des moments où le Seigneur voudrait que nous soyons là, avec lui, que nous passions plus de temps avec lui. Voyez-vous, on vient à l'église, on mange, on rentre à la maison, voilà, et non pas aller dans tous les sens. Voyez. Il y a des gens qui sont partout, sauf là où ils devraient être. Des vrais clochards. Oui. Ils sont tout le temps vandrouilles. Oui, DSDF, ils n'ont pas d'adresse fixe. Si le Seigneur voudrait les chercher, ben à quelle adresse irait-il? Aujourd'hui, ils sont ici. 6 mois après, vous le retrouvez à Kitambo. Parce qu'ils ont appris qu'il y a un prophète là-bas. Voilà. Et puis après, après avoir évolué avec le prophète, ils se rendent compte que ce prophète n'est pas vraiment prophète. Et puis vous le retrouvez à Limete. Après l'imité, tout ça c'est quoi? C'est parce que des gens ont de fausses attentes. Alors ils pensent qu'en changeant d'assemblée, en allant ça et là, ces attentes pourraient être rencontrées. Mais elles ne pourront jamais être rencontrées, parce que ce sont des attentes irréelles, qui n'existent pas. Vous êtes confectionnés. On vous a dit que Dieu vous a appelé et que l'onction de Salomon repose sur vous. Ah oui. Ah bon? Oui, l'onction de Salomon. Ça veut dire que vous êtes celui qui bâtira la plus grande église au cœur de Kinshasa, au point où on ne parlera que de votre église, comme on n'a parlé que du temple de Salomon. Et là, vous dites, ah, merci Seigneur. Là, vous retirez 40 jours pour jeûner, mais ça ne se fera jamais. Dieu ne peut pas donner sa gloire à un individu. Vous pensez que les autres pasteurs, eux, ne comptent pas? Vous pensez que ce qui fait la grandeur d'une œuvre, c'est sa capacité à accueillir autant de monde? Il y a des gens qui remplissent le stade du 20 mai, ou le stade martyr, mais qui sont complètement à l'ouest du royaume de Dieu. Et pourtant les gens y vont. Arrêtons. Arrêtons. L'argile doit demeurer dans la main du potier. Bien-aimé, pour être serviteur ou servante de Dieu, nous devons être modelables, façonnables et demeurer dans la main du Seigneur. Alléluia. Et tout cela nous parle de communion profonde, nous parle d'intimité avec lui, arriver à un point où Dieu devient notre priorité. Ensuite, lui le maître, le divin potier, nous utilisera, nous l'instrument qu'il aura fait, il nous utilisera comme il voudra. Voyez-vous, il a appelé Moïse, il a taillé d'une certaine manière. Moïse a été de l'argile, voyez, eh bien, il lui a donné la forme pour que Moïse se disponibilise entre les mains du Seigneur et que Dieu accomplisse ce qu'il avait comme plan à travers Moïse. N'est-ce pas? Et puis il a pris aussi Aaron, il a façonné à sa manière. Il a pris Our, il a façonné à sa manière. Nous le retrouvons le 3 sur la colline. Il a pris Josué, il a façonné à sa manière. Josué conduisait la bataille dans la vallée, le 3 était sur la montagne. Moïse au centre en train d'intercéder, et quand il s'est fatigué, les deux autres sont venus pour le soutenir. Jamais Our a réclamé, a dit, mais de toute façon Moïse, nous étions avec toi là. Qu'est-ce que tu veux dire? La victoire là, nous t'avons soutenu. Moi aussi je veux devenir Moïse 2. Non, il n'y a eu qu'un seul Moïse. Il n'y en aura qu'un seul Moïse. Disponibilise-toi, reste dans les mains du Seigneur. Il va te donner la forme que personne n'a jamais eue. Car avec Dieu, il n'y a pas de photocopie. Et quand le divin potier a fait avec l'argile l'instrument de son choix, soit un vase, soit un récipient, comme nous l'avons vu, une assiette, un bol, une tasse, un pot, etc., eh bien celui-ci ne sait pas pourquoi le potier lui a donné cette forme, n'est-ce pas? Nous l'avons vu. Seul le potier sait pourquoi il t'a façonné de cette manière. Seul le potier sait pourquoi il t'a modelé de cette manière. C'est pourquoi il a voulu que tu sois dans cet atelier de poterie, celui-là, et pas ailleurs. Voyez-vous, il sait pourquoi. Alors, laisse-toi conduire par lui, et lui alors accomplira ses objectifs à lui, à partir de la forme qu'il t'aura donnée. Voilà pourquoi, en tant qu'argile, nous devons rester dans la main du divin potier, pour qu'il travaille nos vies, et qu'à partir de nos vies, il puisse accomplir ses objectifs à lui. Nous l'avons vu, j'aime beaucoup ça, ce passage, Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. » Oui. Nous le verrons le dimanche prochain, comment Dieu n'attend pas que nous arrivions quelque part, pour qu'il se mette à faire quoi que ce soit. Non, Dieu est au travail autour de nous. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Voyez-vous? Laissons-nous simplement, nous façonner. Faisons tout pour demeurer entre ses mains. Alors il nous conduira là où il voudra. Et Philippiens 2, verset 13, abonde dans le même sens. Car ce Dieu qui opère, qui produit en vous le vouloir et le faire, la volonté et le pouvoir d'accomplir la volonté qu'il aura suscité en nous, qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant, selon son plan bienveillant. Alléluia. Ce sont son plan, ce sont ses desseins, ce ne sont pas nos projets à nous, mais c'est à lui seul. Et pour terminer, puisque nous allons terminer, deux questions, très rapidement. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être malléable, d'être modelable et de demeurer dans la main du Seigneur, le divin potier? Eh bien, vous connaissez la réponse, le péché. Encore le péché est toujours le péché. Eh bien, le péché, mes amis, a cette capacité morbide, funeste, mortifère, de durcir notre cœur, de rendre l'argile rigide, de transformer nos vies en pierre dure. Pendant qu'il transforme nos cœurs en pierre dure, le péché liquéfie en même temps notre foi. Notre foi perd de sa consistance. Voilà pourquoi la Bible, mes amis, nous demande de haïr le péché sous toutes ses formes. Voilà donc la réponse. Il n'y a que le péché. Appelez péché ce que la Bible appelle péché. Voyez-vous? Et enfin, que faire pour demeurer dans la main du divin potier? Eh bien, la solution, vous la connaissez. Mener une vie de sainteté. Marcher dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, 3 nous le dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Et donc, une seule recette, la sanctification, alléluia. Si nous faisons ça, eh bien nous serons cette argile malléable entre les mains du Seigneur, qu'il pourra modeler selon le plan que lui a pour des objectifs en rapport avec sa volonté. Haïssons le péché, fuyons le péché, et aimons la sanctification, alléluia. Et là, nous vivrons des choses extraordinaires. Que le Seigneur soit béni. Merci. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons dire merci à Dieu pour le rappel de toutes ces vérités en rapport avec cette image du potier et de l'argile. L'argile appelée à être malléable pour que le potier puisse la travailler. L'argile appelée à demeurer dans la main du potier pour que le potier puisse travailler l'argile et lui donner la forme selon son bon vouloir. Merci pour cette parole. Ô Dieu, nous voulons implorer ta grâce et te demander, Seigneur, de nous aider à privilégier notre relation avec toi plus que toute autre chose. Tu nous appelles à t'aimer. Tu nous appelles, Seigneur, à demeurer dans une relation de grande proximité avec toi. Nous sommes tes enfants. Nous sommes appelés à être tes serviteurs. Mais pour vivre pleinement cette condition de serviteur, nous avons besoin d'avoir un cœur malléable, un cœur modelable, un cœur qui demeure dans ta main. C'est alors que tu accompliras ton travail par rapport à cette argile et tu utiliseras cette argile pour la manifestation de ta gloire. Merci Seigneur, merci pour tout. Bénis maintenant, ô Dieu, ce service des offrandes et des dîmes, mais merci également le deuxième panier qui passera, Seigneur, pour la souscription par rapport à la construction du nouveau temple. Que tout cela, ô Dieu, puisse, Seigneur, être fait en ta présence et pour ta gloire. Merci Jésus. Amen.